Cette émission vous est offerte par la bière Wachtainer, aussi nommée Sikavi, une bière internationale d'origine allemande depuis 1753, distribuée au Togo par la SNB. Wachtainer, la vie dorée.
Je suis très heureux de vous retrouver sur La Nouvelle Génération. Bonjour, merci de nous choisir dans cette émission Club de la Presse. Vous savez que le rendez-vous, c'est de lundi à vendredi à partir de 11h sur votre radio. Nous y sommes. Merci pour votre fidélité sans cesse renouvelée. Le ministre de la Réforme du Service Public du Travail et du Dialogue Social a réagi à la grève qui paralyse alors les secteurs bancaires, financiers et des assurances. La suspension de travail de 72 heures annoncée par le Saint-Banque et le Sinassure a compté alors du mercredi 24 septembre 2025 fait suite alors au licenciement d'une quarantaine d'employés par la direction du groupe Sono Bank Togo. Dans un communiqué, Gilbert Bahara a apporté des éclaircissements sur la situation et sur les démarches engagées. Il a invité les syndicats à revoir leur mot d'ordre, estimant que au regard des motifs invoqués, les conditions d'une grève régulière ne sont pas réunies. Le sujet nous intéresse au Club de la Presse, nous allons l'aborder bien sûr et nous parlerons d'autres sujets liés à l'actualité tels qu'évoqués par des journaux parus aujourd'hui dans cette émission Club de la Presse de ce jeudi 25 septembre 2025. Bienvenue au Club. Pour la coordination de l'émission de ce jour, Kiki Sousa sur la mise en onde, Jérôme Dakoutier est à la mise en ligne. Je suis Pascal Lossou au micro. Nos salutations fraternelles à vous tous qui nous suivez partout au Togo, grâce à nos radios partenaires. Radio Lumière à Niro, Radio La Paix à Takpamé, Centrale FM à Sokoum, nous sommes à Badou, Radio Daoul à Bassa, Sama FM à Baga près de Niamtougou, et puis Radio Koktouazi à Dapaon. Vous le savez, vous avez ce privilège de nous suivre aussi partout dans le monde grâce à nos différentes plateformes digitales, notamment notre chaîne YouTube, aussi notre page Facebook, sans oublier notre site internet www.canalfm.com et aussi nos radios partenaires en ligne Ibn Radio et Radio Le Bénin. Club de la Presse, vous le savez très bien, c'est le décryptage, l'analyse, le débat sur l'actualité de notre pays, le Togo, du continent africain, aussi du monde entier. C'est avec mes confrères journalistes en studio, avec moi, confrères déjà présents dans ce studio. Avec moi, c'est Ambroise Pondo. Ambroise, bonjour.
Pascal, bonjour. Bonjour les chers amis techniciens qui sont de l'autre côté de la belle vitrée. Bonjour ceux qui nous suivent depuis la capitale, les villes ou les localités environnantes et surtout ceux qui sont dans la diaspora. Je profite de cette occasion pour rappeler les usagers au respect du code de la route. Le respect du code de la route doit être la première des valeurs pour ceux qui sont des usagers, ceux qui prennent vos motos, voitures, véhicules commerciaux et autres. Le respect du code de la route doit être notre première priorité. Ça doit être un déclic. Quand vous quittez votre domicile, le fait d'avoir franchi les portails de votre domicile, vous rentrez déjà dans le giron du respect du code de la route. Y compris le respect des feux tricolores. Ceux-là qui violent allègrement les feux tricolores. Les taximens qui jouent au gyrophare ou qui jouent au cirque sur la voie publique. Les émigrants qui en font autant. Des fois même, les grands véhicules bus sautoiles, dont certains chauffeurs sont des fois indélicats, ce message va à leur endroit pour que les vies soient préservées, surtout la vie de nos enfants qui ont déjà commencé la rentrée il y a de cela plus d'une semaine. Et donc, le second message va à l'endroit du nouveau directeur de la sécurité routière. Il a l'impérieux devoir de rappeler à l'ordre, à travers ses collaborateurs, les gros porteurs, camions et transports de sable, camions titans, camions et transports de marchandises, camions et transports de planches, tous ces véhicules, longs véhicules là, doivent avoir une heure fixe à laquelle ils doivent sortir et ne jamais sortir aux heures de pointe. 6 heures, entre 6 heures et 7h30, je ne crois pas que ce soit une bonne heure à ces véhicules de sortir parce que et les fonctionnaires, les enfants vont à l'école. Entre 11h30 et 13h30, ils doivent être parqués quelque part. Maintenant, entre 17h et 18h30, je crois que le respect des heures, comme on a l'habitude de le dire ici, le ministère de la Sécurité, à travers la direction de la sécurité routière, doivent faire en sorte que les gros porteurs, les véhicules que j'ai cités, le long véhicule là, respectent ces heures-là pour la sécurité, pour la vie des usagers et de nos concitoyens.
Merci beaucoup Ambroise. Je pense quand même que c'est un message très important puisque il est très important que nous arrivions à respecter le code de la route pour préserver surtout, tel que vous l'avez dit, la vie de nos citoyens ou nos concitoyens, bien sûr. Et oui, Ambroise, merci d'avoir accepté surtout notre invitation. Nous attendons notre confrère Jean Le Grand pour le Réuni et aussi Elom Atisogbe qui doivent nous rejoindre incessamment. Alors oui, on commence cette émission par ce sujet. On sait que depuis hier c'est le 24 septembre, bien sûr, ou c'était le 24 septembre, et depuis hier, il y a le secteur bancaire qui observe une paralysie, compte tenu alors de la grève de 72 heures annoncée par les syndicats surtout alors du secteur bancaire et aussi de l'assurance. On connaît bien un peu le dossier parce que nous en avons parlé alors dans ce studio. C'est tout ce qui, enfin, tout est parti alors de ce licenciement de 42 personnes à Suno Bank. Et finalement, hier, le ministre du Travail a réagi par rapport à cette grève ou à cette suspension alors de travail. Et le ministre dit, bien sûr, après, un peu dans son communiqué, le ministre invite les syndicats à revoir leur mot d'ordre, estimant que, au regard des motifs invoqués, les conditions d'une grève régulière ne sont pas réunies. C'est bien ce que le ministre a dit dans son communiqué. Alors, comment vous analysez cela, Ambroise?
Oui, d'abord, je me dis que la sortie du ministre, au lieu de s'attaquer au fond du problème, s'en prend la forme. Le problème n'est plus en la forme. On a déjà dépassé ce stade-là, où la menace de grève était là, était existentielle depuis des semaines. On a eu un débat de ce sujet ici. Les réunions qui ont été faites des deux côtés, que ce soit au niveau des syndicats, que ce soit entre les syndicats et leur patron, c'est-à-dire Suno Bank et autres, et avec l'intermédiaire, le ministère, la direction des transports, la direction des lois sociales et tout ça. Et donc, après un mois que cette affaire-là dure, si le ministre devait réagir, je crois qu'il devait maintenant rentrer dans comment faire pour trouver une solution à ce problème, aux 42 personnes qui ont été licenciées, et comment faire pour que la poire soit mise en deux. Si tel devait être le cas, je crois que c'est à cela que le ministre devait s'attaquer. Si le ministre nous dit aujourd'hui que les conditions ne sont pas bonnes pour une grève, nous sommes lésés dans notre travail. Parce que nous sommes là, nous travaillons, mais nous revendiquons nos conditions de vie au travail. Et justement, il s'agit de l'amélioration des conditions de vie au travail. Mais il s'agit plus que ça. Nous avons été licenciés, pratiquement licenciés. Et il nous est revenu de revendiquer notre droit. Mais en tant qu'autorité, qui devait mettre la poire en deux ou qui devait régler le problème, si vous vous attaquez à la forme, c'est-à-dire que soit c'est la grève qui n'est pas, la période de la grève qui n'est pas bien choisie, ou soit c'est les conditions de cette grève. Ça, c'est un fuite, c'est une fuite en avant. Ça y est, le ministre est en train de jouer le faux fuyant. Soit s'il n'a pas de solution, il le dit carrément et la grève continue. Ou soit il a une solution, il appelle les deux parties à discuter et que chacun puisse choisir de sacrifier quelque chose.
Nous avons appris que les discussions n'ont pas abouti, puisque entre-temps, il y a le ministre qui a voulu même d'ailleurs jouer de négociation, hein, ou de négociateur entre les deux parties, mais finalement ça n'a pas marché.
Il a déjà pris parti. On ne peut pas vouloir jouer les négociateurs. Vous savez, négocier ou être médiateur ou être négociateur ou facilitateur, c'est un art. Hein. Ça ne se décrète pas. Sa prise de position en premier, il avait dit des choses. Lorsque les gens ont été licenciés, si vous fuyez bien, vous allez voir ce que le ministre avait dit. Mais il a déjà échoué. Il a déjà pris parti pour un cas. Et donc, si tel est le cas, s'il doit réellement s'ingérer dans cette affaire et la régler définitivement, c'est de, pas forcément de taper du poing sur la planche, mais c'est de faire en sorte que la loi soit respectée. J'ai l'impression qu'ils sont là. Ils sont les garants de la loi, mais ils ne font pas respecter la loi par les employeurs. Moi, je l'ai dit la dernière fois ici, si tel devait être le cas, on parle d'un licenciement, on parle de départ, comment on dit ça, départ volontaire à la retraite,
la retraite. Comme ça,
ou, oui, départ volontaire, il y a déjà sur le calendrier, il y a 12, qui, il y a 12 ou 30 qui devront aller à la retraite dans 2 ans. Je l'ai dit, en tout cas, il y a toujours une solution. Ok, discuter avec ceux-là qui vont partir dans 2 ans. Comment on va gérer le cas? Tous les avantages afférents et indemnité, donnez-les leur et ils vont partir à la retraite dans 2 ans. Ou soit, ils partent automatiquement, mais les compensations doivent être faites. Ça existe dans la loi. La direction du travail, la direction générale du travail et des lois sociales est là. Je crois que les inspecteurs du travail sont là pour régler ça. Ça donne l'impression des fois aussi qu'eux aussi ne jouent pas leur rôle. Et j'ai compris que c'est la pesanteur même de l'autorité sur cette structure-là qui fait en sorte que les inspecteurs qui sont là n'arrivent pas à régler les problèmes. C'est ce que j'ai compris. Parce qu'il y a tout est prévu dans la loi. Mais le Togo est parti à plusieurs conventions, plusieurs traités sur le droit du travail. Pourquoi ils ne veulent pas respecter ça? Autant, si tel est le cas, que le ministre quitte son ministère. Parce qu'il ne fait pas son travail. Ça, c'est un. De deux, aux 12 personnes restantes, qui ont encore peut-être 20 ans ou 15 ans à faire, ils ne sont pas nombreux. Qu'est-ce que ça coûte à Sulu Bank de régulariser la situation de ces 12 personnes-là? Ne serait-ce que pour sauver la face, non seulement sauver la face, mais pour prouver aux yeux du monde que la banque n'est pas là seulement pour les intérêts des employeurs ou des actionnaires. La banque est là aussi pour le social. Social parce qu'il y en a qui travaillent, qui nourrissent les familles. Et cette histoire-là tombe mal en période de rentrée scolaire pour les enfants. Alors que nombre de personnes de ces gens-là sont des parents. Ce n'est pas normal, ce n'est pas évident. Et donc, si une banque veut être intransigeant, voilà là où ça nous conduit. L'intransigeance ne règne pas en matière de travail. Voilà que les autres sont ratés dedans. Qu'est-ce qu'ils vont faire?
Non, mais Ambrose, quand on prend justement les explications aussi de Sunu Bank qui dit plutôt que c'est pour des raisons économiques ou pour motifs économiques quand même que cette décision a été prise, puisque nous avons reçu même d'ailleurs l'un des responsables alors de Sunu Bank ici en studio. Mais est-ce que ça ne se comprend pas aussi?
Raisons économiques. On a tous écouté notre ami le monsieur ici qui a convaincu Abdé à moitié. Tout simplement parce que il est clair que la commission bancaire avait commandité un audit qui révélait des détournements, pour ne pas dire mauvaise gestion de la banque, l'utilisation des fonds bizarres pour des choses qu'on ne sait pas. 10 millions de salaire pour telle personne. Et tout ça là, mais quand l'employé entend ça et qu'on lui dise par après que c'est licenciement pour motif économique, mais non, on ne gère pas une banque comme ça. Moi, je n'ai jamais été banquier. Je n'ai jamais été quoi que ce soit, mais je me dis que gérer une banque devait être la structure la plus délicate à gérer au monde. Parce qu'on parle du nerf de la guerre. On parle de l'argent. Et si tel est le cas, il y a des méthodes plus astucieuses, des méthodes plus cousues, plus draconiennes, avec laquelle il faut gérer la banque, protéger l'argent, maintenant avec une certaine flexibilité, puisque l'argent est déposé par quelqu'un pour pouvoir lui donner la chance d'avoir son argent et à d'autres personnes qui ont aussi leur compte là-bas ou qui épargnent de faire des prêts. Mais donc, si tel est le cas, on ne doit pas gérer une banque comme une épicerie de quartier ou de maison. Mais venez dire simplement que c'est pour des raisons économiques, c'est la raison que tu trouvais. Hein. Ah, la banque a trouvé une très bonne raison que chez nous au Togo, les gens trouvent dans la zone franche pour pouvoir licencier allègrement, licencier facilement comme ça. Et le ministère ne dit rien. Et la direction du travail ne dit rien.
Alors pour cela, est-ce que vous pensez qu'il y a autre source quand même qui doit être derrière? Parce que quand la banque dit que c'est pour des raisons économiques, c'est seule la banque quand même qui maîtrise ces rhétoriques.
Non, c'est la volonté de licencier des gens parce qu'on a la force, parce qu'on a le pouvoir. C'est nous qui décidons. Parce qu'il y a peut-être des gros bonnets ici qui sont actionnaires dans cette banque. Parce qu'il y a des ministres ou des gens du régime qui sont actionnaires dans cette banque-là.
Mais à quel fait on doit choisir alors de licencier des gens sans que, justement, ça n'apporte pas alors du bien aux employés.
Tu sais, le comble dans tout ce cinéma de licenciement, c'est le licenciement du secrétaire général du syndicat. Je n'ai jamais appris ça, nuit-là. Je n'ai jamais appris ça. À moins que la personne ait commis une faute lourde qui le dispense de tout ce qui est continuité de travail dans cette banque ou dans le secteur. Mais un chef de syndicat qui est censé défendre les droits et les intérêts de ses collègues, vous le licenciez. J'ai l'impression que ces gens-là ne maîtrisent rien de la loi, quoi. C'est-à-dire, je n'ai rien contre eux. Hein. Pour eux, je leur donne la solution. Moi, si petit ici, je leur donne la solution. Parce que, je l'ai dit ici la dernière fois, s'ils veulent tergiverser, cette histoire-là qui pense être banalisée va devenir grande. C'est-à-dire, petit serpent va devenir un naja dans la chambre. C'est ce qui est en train d'arriver. Imaginez que toutes les banques et les assurances ferment tout dans le pays. Mais ce sera au passif de qui? Ce serait contre qui? C'est contre le gouvernement togolais. Si M. Barra joue à ce jeu de mots, comme quoi... D'abord, il a commencé par menacer, comme à son habitude. Et par la suite, il parle de négociation. C'est factice, c'est la poudre aux yeux, on le connaît. Les banquiers aussi le connaissent. Hein. Ils le connaissent pour dire qu'en réalité, il ne joue pas pour calmer le jeu. Il joue pour rentrer dans la montre. Il est en train de jouer sur le chrono pour que les gens soient fatigués, le temps de négocier ou de pas forcément corrompre, mais de menacer certaines personnes parmi les grévistes pour que ça capote. C'est leur habitude ici. C'est leur habitude. Et donc, moi, j'avais dit aussi à ceux-là qui sont en train de faire la grève, parce que nous, quand tu coupes pour le chat, il faut couper pour la souris aussi. Vous avez fait pratiquement combien d'années? Les gens ont fait 30 ans, le service là-bas. Les gens ont fait 28 ans. D'accord. Là où peut-être ils ont raison, c'est que on ne va pas à cause de nos 28 ans parce qu'on part à la retraite à 2 ans, qu'on va sacrifier la vie des autres qui feront encore 20 ans. Si on lâche prise, les autres qui sont actuellement là aussi subiront la même chose de la part d'une autre banque. C'est là où il faut comprendre. Il n'y a même pas ceci à comprendre. C'est là où il faut comprendre ceux qui sont en train de faire la grève. La preuve, il y en a qui ne sont pas concernés, mais ils sont solidaires. Parce que quand la case de ton voisin brûle et que tu ne le laisses pas avec de l'eau, du sable pour éteindre, mon frère, ma soeur, quand la tienne va prendre feu, personne ne viendra. Donc, ils sont solidaires et je salue cette solidarité-là. L'Afrique, toute l'Afrique serait solidaire et unie. Aucun blanc ne viendra dominer, ne viendra imposer quoi que ce soit. C'est juste la similarité que j'ai voulu faire entendre pour dire que le ministre ferait mieux de mettre la balle à la terre, de jouer au vrai médiateur. Il n'a qu'à jouer au vrai médiateur, au vrai facilitateur pour trouver un terrain d'entente entre les deux protagonistes, entre les deux belligérants, si ils ne sont pas en guerre, mais entre les deux parties, pour dire que bon, les 12 personnes là, on les garde, ils finissent leur contrat ou leur mission dans la banque, mais les 30 autres qui partent dans 2 ans, on les laisse partir, mais on paie telle chose, on paie indemnité, on paie tant. Les avocats sont là, la loi est là, on voit tout ça là, puisque la loi est là, ils font respecter la loi, c'est tout.
En bref, on va aborder un autre sujet. On sait que le lundi dernier, il y a le rapport du PNUD sur l'indice du développement humain qui a été justement rendu public. Et des journaux sont revenus, bien sûr, hein, sur ce rapport. Il y a le journal Chronique de la semaine qui titre, bien sûr, sur le sujet aujourd'hui. Rapport IDH 2025, le Togo franchit la barre des pays à développement humain moyen. Et là, il faut rappeler quand même que le Togo était alors dans, justement, l'indice alors faible, et donc le Togo a franchi, justement, la barre de IDH moyen. Et autre journal qui s'intéresse, bien sûr, au sujet, c'est le journal Canal D. Canal D qui titre rapport IDH 2025, Togo, pays à développement humain moyen, un bon évolutif, de bons chiffres statistiques, mais, 3 points de suspension, le chantier demeure immense. Autre journal, bien sûr, qui s'intéresse au sujet, c'est Ouara les vainqueurs, et qui écrit, bien sûr, rapport IDH 2025, pays à développement humain moyen, et bien sûr, avec le Togo, le drapeau du Togo, bien sûr, à l'affiche, ou à la une alors du journal, le Togo enregistre un progrès remarquable. C'est ce que le journal écrit par la suite. Et en bref, c'est vrai que nous avons tous ensemble suivi hein, cette information où le Togo a franchi maintenant le cap et est maintenant un pays pour ce qui concerne l'IDH. Le Togo est justement fait l'IDH moyen. Mais là, la question est de savoir qu'est-ce qui va changer concrètement avec ce cap-là que le Togo vient de franchir.
Rien ne va changer. Rien. T'as dit tout de suite, rien quoi. D'abord, bon, moi je ne suis pas invité, je ne suis jamais invité à tout ce que Dame, comment vous l'appelez, Dame Johnson présente. Je ne suis pas choqué, parce que heureusement je suis tranquille chez moi. De deux, j'ai lu des confrères publics, des choses, j'ai suivi des choses sur les médias, des chiffres ou des résonances ronflant. Tu sais, moi je dis que on n'en a rien contre personne. Mais nous voulons quantifier ce qui est réel, ce qui est fait au Togo. On parle de développement. L'indice de développement humain. Pour ceux qui sont allés à l'école, on parle d'indice de développement humain. L'homme doit se développer. C'est ça, non? Pour l'enfant du CP2, pas de CM2, CM1. Pour que je puisse l'expliquer, parce que moi-même, je ne comprends rien dans tout ça. Je sais aussi qu'il y a des gouvernements qui vont acheter des chiffres, ils vont acheter des indices pour qu'on pense qu'ils font quelque chose. Donc, bon, pour le moment, je ne dis pas que c'est le cas pour le Togo. Mais je dis qu'on parle d'indice développement humain. Toi et moi, toi et Pascal qui est assis là-bas, tu serais peut-être au Sénégal ou au Bénin, tu devrais avoir déjà ton véhicule. On me dira que bon, pourquoi ça? Oui, parce qu'en allant à Dakar, tu comprends que le journaliste pratiquement est comparable à un ministre. C'est pas tu y as une fois vu, même au Bénin. Mais tu n'as qu'une moto. Ça aussi, c'est difficilement. D'accord. Quand tu descends en bas de Canal FM, tu vas voir les bonnes dames vendre des pastèques et arachides, tout ça là-bas. Va voir combien de personnes stationnent devant elles avant midi. D'accord. On parle souvent de développement humain. Le développement doit passer par les activités économiques dans le pays, qui sont manifestes dans le pays. Ceux qui ne sont pas des fonctionnaires, ou ceux qui ne sont pas professionnellement actifs, doivent avoir une activité générative de revenus. Combien de personnes ont des activités générative de revenus qui leur engagent au moins un petit fonds pour subvenir aux besoins de la famille? Ça, il faut les chercher. Quand on fait un ratio sur 100, on peut trouver peut-être 20 à 30 %. Les 70 %, c'est du chaos. Maintenant, ceux qui sont en chômage, je dis n'importe quoi, hein, ceux qui sont en chômage, si 30 000 étudiants sortent à partir de la licence, sans emploi. Tu fais le calcul sur 10 ans. Imagine le nombre de chômeurs qu'on a. Combien, peut-être c'est 5% qui trouvent du travail, que ce soit au niveau de la fonction publique, que ce soit avec des concours bizarres, que ce soit au niveau des entreprises privées, ou que ce soit dans les entrepreneuriats. Ça aussi, ça ne marche pas. Maintenant, on parle maintenant de la microéconomie ou de la macroéconomie. Quand on rentre dans les chiffres, par rapport au PIB ou par rapport à la croissance, on vous dira que le Togo va franchir en 2024 ou en 2025 les 6,5%. Ça aussi, c'est, moi j'appelle ça des chiffres ronflants. Et quand on rentre dans ces chiffres-là, par rapport au PIB, on comprend qu'en réalité, sur le papier, tout est nickel, tout est OK. Mais dans la vie pratique des Togolais, le panier de la ménagère n'a pas bougé. Puis, ça s'assombrit, ça s'enfonce. Et donc, si tout ce calcul-là fait, et qu'on nous dise aujourd'hui que le Togo est devant le Sénégal, le Togo est devant le Bénin, ça, beaucoup ne vont pas comprendre. Tout simplement parce que c'est vrai que quand vous allez au Sénégal, le niveau de vie du Togolais est bas plus que celui du Sénégal, ou peut-être du Bénin. En comparaison, on peut dire que le Togo a gagné en cela, parce que à Imolu, si vous voulez acheter à Imolu ici, même à 500, à 250 francs, vous pouvez manger à Imolu. Mais pas au Sénégal. Au Sénégal, c'est à 1000 francs.
Mais ça dépend aussi du pouvoir d'achat.
C'est ce que je dis. Je parle du niveau de vie et du pouvoir d'achat. Au Bénin, c'est la même chose. Vous allez au Gabon, c'est pire. À Imolu, c'est à 2000 francs. Pratiquement, en Côte d'Ivoire aussi, c'est à 1500 à 2000 francs. Donc, là, on dira que le Togo a gagné. Mais le Togo, qui a un pouvoir d'achat faible, déjà, même si on a un niveau de vie faible, qui paie le gaz, un Togolais qui paie le gaz à 10 000 francs, comparativement à un Gabonais qui paie le gaz à 4 200. Suivez-moi très bien. Alors que le coût du loyer, le 9 mètres carrés au Gabon, doit être à 150 000. Au Togo, le 9 mètres carrés, dans un quartier même ici, doit être à 15 000. Chez moi, là-bas, ça doit être peut-être à 7 000 ou à 10 000. Au Sénégal, le studio est à 50 000. C'est-à-dire, tout ce que je dis là, je n'invente rien. Pour te dire qu'en réalité, le Togolais est celui qui est le plus enfoncé. C'est-à-dire, c'est comme si les gouvernants choisissent de nous enterrer vivants.
Comment ça, Ambroise?
Enterrer vivants parce que le salarié, le fonctionnaire qui est à la fonction publique, salaire net. Salaire net, ça veut dire qu'on a enlevé, il y a le brut qui peut être pour un 4 à 1 à 350 000, un 4 à 1, un ingénieur, un 4 à 1 à 350 000, le net peut revenir à 300 000 par exemple. Je dis n'importe quoi, parce que je ne suis pas spécialiste. J'ai fait les finances publiques, j'ai fait tout ça à la main, ce n'est pas mon domaine quoi. Mais j'essaie quand même de faire quelque chose pour voir ce qui reste à ce salarié-là. Celui qui a 300 000 francs pour la catégorie A1, celui qui a la maîtrise, ou bien le master, ou un ingénieur, qui loue 50 000 francs pour le loyer, qui n'a pas encore son chez, sa propre maison, 50 000 francs. La rentrée a commencé, il doit dépenser 150 000 francs. Ne serait-ce que pour le mois de septembre et le mois d'août. Maintenant, si on prend le mois d'octobre, le mois d'août, les dépenses là sont réduites. Le quotidien, lui-même, les enfants doivent aller à l'école, et doivent prendre de l'argent pour aller à l'école, les déplacements, la santé, l'habillement, sur un mois, sur deux mois, sur trois mois. Si tu fais le calcul, on est misérable. Le fonctionnaire travaille, mais il est misérable. Et à chaque mois, il doit tendre la main. Normalement, c'est un entrepreneur qui gagne le mieux. Un entrepreneur, si ça marche bien. Et qu'on ne restreigne pas l'entrepreneuriat togolais, parce que si vous avez de l'argent, vous risquez de financer les opposants. Le Togolais devait être très loin, comme le Ghanéen ou le Nigérian. Même au Bénin, on peut accuser Talon. Mais Talon laisse faire. Aujourd'hui, c'est clair que même avec le pétrole, ce que nous puisons à la pompe, à 600 quelque chose francs, le pétrole a baissé depuis, est en train de dégringoler depuis 3 ans. Mais le prix à la pompe n'a jamais baissé, Pascal. Demande-toi pourquoi. Alors que la vérité des prix, c'est que quand ça augmente à la pompe. Quand ça diminue, ça doit diminuer. On serait à peu près à 350 000, 300 000, 307. Non, on serait à 350 francs le prix du litre actuellement à la pompe, si on suit réellement la vérité des prix à la pompe. Mais rien de tout ça. Pour vous dire que il n'y a personne pour sauver le Togolais. Nous sommes en esclavage. C'est-à-dire que tu subis, tu veux réagir, on te réprime, on te mate. Et tu es obligé de subir jusqu'à. Les AVC sont nombreux maintenant dans le pays. Ceux qui ont le cancer sont nombreux. Ceux qui ont l'hémiplégie sont nombreux. Ceux qui rentrent juste dans la douche parce que la dame a envoyé le message. Il a fait l'AVC. Parce que il n'y a pas, ne serait que 1000 francs à donner à la dame. Parce que ce que je dis là, ça doit faire pleurer quelqu'un quelque part. Nous sommes en esclavage. Ça y est, je ne sais pas comment
est-ce que c'est ça. Est-ce que c'est pas trop dit?
Je n'exagère pas.
Oui,
en vrai. Ça y est que ce que tu vois dans les bars là, c'est pour noyer les soucis. C'est pour se libérer des coquins. Certains hommes restent là-bas la nuit jusqu'à 2h du matin. Des fois, même ils ne reviennent pas.
En bref, est-ce que ça veut dire que déjà pour ce qui concerne alors ce rapport qui est sorti, on ne retrouve pas justement son impact alors sur la vie alors du Togolais?
Sur le papier, oui, c'est bon. Sur le papier, avec c'est luxurant, c'est verdoyant dans le visage de Jean Ablamba et de Fonya Sibé, tout ça là. Maintenant, je dis en tête de toi à moi, ça ne marche pas. Il faut avoir le courage de le dire. C'est-à-dire que faut pas dire quelque chose qui n'est pas concret, qui ne reflète pas la réalité. Ce n'est pas le fait d'appeler les journalistes et de donner 50 000 francs ou de quoi. Non, 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 on ne parle pas de ça. Nous parlons du peuple togolais, d'un peuple qui souffre, d'un peuple qui est dans la misère, qui devait être secouru dans tous les plans. Vous allez voir, les Centrafricains, les Gabonais, les Équato-Guinéens viennent chercher notre gari ici pour se transporter là-bas. C'est ce qui nous reste, c'est le gari qui reste au Togolais. C'est la richesse qui gagne, qui reste pour le Togolais, le gari, qui était à 250 francs chez moi là-bas, à Kato là-bas, chez nos frères à Flaou là-bas, à 250 francs, il y a 3 ans, le gari est à 1300 francs. Le gari qui est la dernière soudure pour le Togolais est à 300 francs. L'haricot qui sauve les maçons, qui sauve ceux qui sont dans la période dure du temps. L'haricot est à combien? À 2000 quelque chose. Le bol. Dis-moi, Pascal, est-ce que IDH, là, indice développement humain, là, est-ce que ça a raison d'être? Non.
Mais est-ce que finalement, ce n'est pas peut-être sur le plan macro que peut-être c'est...
Le Togolais s'en fout du macro. Le Togolais ne veut même pas entendre ce que vous appelez macro. C'est-à-dire que tous ces économistes qu'ils ont appelés pour venir, là, le Dominique Strauss-Kahn, comment on l'appelle, le londonien, là, tout ça, là, le Togolais ne veut pas voir ça, là. Tout ça, c'est eux. Le Togolais veut ce qui doit être vivant devant lui. Le Togolais veut vivre là. Le Togolais veut vivre simple. Le Togolais n'est même pas compliqué.
Donc le Togolais ne vit pas?
Le Togolais vivote. Tu as vu un poisson dans l'eau lorsque le soleil au zénith entre décembre et janvier? Tu as une fois vu un poisson comme ça? Tu as vu un poisson, tous les poissons montent. Comment? À la surface. Tu as une fois vu ça? Le poisson est dans l'eau, mais il cherche de l'air. Est-ce que tu comprends ça? C'est la vie que nous menons actuellement au Togo. Ça veut dire que c'est l'eau qui est le dernier rempart du poisson, en fait. Mais si l'eau doit être le summum de la guerre, le poisson monte pour chercher de l'air. Ça veut dire que ça chauffe en bas, il fait chaud. C'est ce qui arrive au Togolais actuellement. Il y a plein de choses que je vais te dire. J'ai donné l'exemple du gari, j'ai donné l'exemple de haricot, j'ai donné l'exemple. Et dans tout ça aussi, il y a plein de choses qui nous tuent. Et le gouvernement ne fait rien. Les pesticides, les herbicides, c'est-à-dire que les engrais chimiques, tout ça là, ça nous tue. On est laissé pour compte. On dira qu'il n'y a pas. On dira qu'on n'a pas de sauveur. C'est-à-dire, hein, on n'a rien, personne qui nous sauve. Quand tu veux crier, on te frappe. Et quand tu pleures, on va encore te frapper. C'est ça le Togolais vit. Il faut qu'on ait le courage de le dire.
Alors, on va aborder un autre sujet, bien sûr. On sait que ce sujet qui fait aussi l'actualité depuis la semaine dernière, c'est bien l'interpellation alors de Madame Nyakade, l'ancienne ministre des armées. Et dans le week-end dernier, nous avons quand même eu assez de précisions sur son interpellation avec des chefs d'accusation et également qui sont portés à son encontre, et parce que le procureur de la République a fait une sortie, bien sûr, et le procureur de la République a donné plus de précisions, bien sûr. Et il y a des journaux qui sont revenus là-dessus. Les journaux, il y a Chronique de la Semaine, bien sûr, qui écrit interpellation de Marguerite Nyakade et Amron, les précisions du procureur de la République, avec justement la photo alors du procureur de la République, Talaka Mawama, et procureur de la République, justement, à la une alors du journal. D'autres journaux, bien sûr, sont revenus sur justement cette actualité. Oui, en bref, Aujourd'hui, oui, le procureur de la République situe l'opinion quand même sur cette interpellation et donne et aussi les chefs d'accusation. Comment vous analysez cela, Ambroise?
D'abord, j'avais dit ici qu'il y a une certaine presse en ligne qui avait déjà devancé les événements en prenant la place du procureur. Et certains diront ou croiront que nous sommes en train de faire un procès à une certaine presse en ligne. On sait comment ça se passe dans notre corporation. On sait qu'il y en a qui reçoivent des éléments de langage, qui publient des choses. Au risque de brûler cette règle de confraternité que j'ai, parce que je me dis qu'il y en a, que certains sont des journalistes, ou c'est des agents de renseignement qui envoient ça, qui publient ça, qui se transforment en journalistes, qui ont des presses en ligne, qui publient des choses que le procureur devait s'en saisir.
Oh, Ambroise, on va s'intéresser, bien sûr.
Le procureur est finalement arrivé. Oui. Parce que dans tout pays, quand il y a infraction, c'est le procureur qui s'en saisit. Mais ici, il y a des infractions qui sont commises, le procureur ne s'est jamais gêné. Jusqu'au jour, plus de 15 ans, 10 ans, des choses sont passées. Le procureur ne s'est jamais saisi. Et c'est les gens qui devancent les événements et tout cela, comme c'est le cas de Mme Nakadeh. Vous savez, et moi, le cas Nakadeh, je ne dirais pas que ça ne me dit rien, mais je dirais plutôt que on tente de faire taire une dame qui a commencé par parler. Parce que ce système, vous allez voir certains de nos confrères ne crient même plus sur les réseaux sociaux. Ça dit que c'est pas une auto-censure. On te dit, si tu écris, si tu tombes sur le coup de la loi à son article 497, ça fait ton problème. Alors que nous, on lutte contre cette loi-là pour revenir aux règles universelles du journalisme.
Et Ambroise, on va laisser les confrères.
Non, non,
on
parle, c'est de ça qu'il s'agit. On s'attaque à la parole. C'est là où je voudrais en venir. Quand on s'attaque à la parole, ce qui veut dire que vous n'avez plus droit à la parole. Je parle de la parole libre. Et cette parole libre que nous avons aujourd'hui doit être un combat. Ça a été un combat depuis 90. Et je ne pense pas qu'on puisse encore revenir sur ce droit à la parole-là. La liberté de parole, la liberté de presse, la liberté de parler, ou d'expression, je crois que c'est inscrit dans la Constitution. Et si certains ne pensent pas à respecter cela, Mme Nakadeh est en train de respecter cette liberté-là, tout simplement parce qu'elle dit des choses, elle fait partie du clan, elle a été dans le cercle restreint du pouvoir de Lomé, et elle dit des choses qui ne plaît pas surtout à certaines personnes au perché de ce pays. Et ils se disent, il faut le mettre quelque part pour éviter qu'elle parle. Et la dernière, c'est quand on a appris qu'elle était prête encore à faire des révélations fracassantes. Et donc, on l'a cherché à le mettre quelque part. Ce que nous autres savons, c'est que la loi est faite pour tous. Si vous parlez, le procureur parle d'indices, mais ne parle pas de preuves tangibles, c'est le procureur qui est en erreur. Le début de preuve, est-ce que le début de preuve ou le début de preuve que je peux qualifier d'indice est une piste à conduire une personne en prison? Ça, c'est une grande question à se poser. Je veux commettre une infraction, mais il n'y a aucun élément qui prouve que je suis effectivement dans le champ de la commission de cette infraction. Je ne peux jamais me prendre comme un co-auteur ou un auteur de telle ou telle infraction. Parce que on n'a rien trouvé chez Mme Nakadeh. Ils ont eu affaire des perquisitions, ils n'ont rien trouvé.
Il y a eu quand même cette précision que les éléments de preuve ont été détruits.
Oh là, c'est-à-dire que on parle de quel élément de preuve? Donc vous croyez à ce que le procureur dit? Moi, depuis tout ça, procureur, les quatre derniers procureurs du Togo, ça ne me dit rien. Parce que
les gens ont volé. C'est ce qui a été officiel, Ambroise.
Parce que les gens ont volé de l'argent, les gens ont détourné de l'argent dans ce pays. 26 milliards pour la route, le même enfant Vaughan. 600 milliards pour la CAN. Il y en a, la APUSA qui est en train de. La APUSA est devenue une banque qui. Comment on dit ça? Qui récupère des fonds pour détourner. Le procureur ne s'est jamais saisi. Maintenant, on parle d'indices ou on parle de preuves, des décisions de preuves. Pascal, tu penses que si le procureur a une preuve réellement que Dame Nyakade aurait détruit, le procureur va révéler ça pour coincer Dame Nyakade. Parce qu'il faut trouver quelque chose pour la coincer, c'est ça. Mais tant qu'il n'a pas trouvé, il doit dire quelque chose pour l'inquiéter, pour qu'on puisse le garder quelque part. Jusque-là même, on ne devait pas l'arrêter. Parce qu'on dit qu'on détruit des preuves. La piste de ce début de preuve-là, où est ça? On n'a pas trouvé ça. On n'a pas trouvé. Et donc, moi, je dis que ce ne sont que des supputations qui ne demandent pas à arrêter une personne à le déposer en prison ou à le mettre quelque part en le privant de sa liberté. Et je crois que, pour finir sur ce dossier, je crois que les choses se révéleront tôt ou tard. Le mensonge a toujours couru. Hein. Ah, le mensonge a pris. C'est le premier, même à prendre l'ascenseur en premier. Mais celui qui prend l'escalier là, c'est lui qui révèle la vérité. La vérité, tout ce qui se passe dans ce pays, les incendies des marchés, tout ça là, à Goé, Lomé, à Kara, tout ça là, un jour, ça va se révéler. C'est les gens qui ont brûlé, non? Eux-mêmes viendront parler. Pour le moment, ils sont là. Le jour, ils vont tomber. La justice va changer demain. Les choses vont changer. C'est ce qui nous donne de l'espoir. C'est ce qui nous donne, nous, de l'espoir en se disant, en se référant à la Bible et en se référant à plusieurs récits historiques de l'histoire de certains pays que aucune dictature n'a résisté à un peuple. Jamais.
Et en bref, c'est vrai qu'on attend le procès, bien sûr, alors dans cette affaire, pour savoir exactement
le fond,
justement, pour savoir exactement ce qui s'est passé. Mais est-ce qu'à un moment donné, avec les sorties de Mme Nyakade, on pourra dire qu'elle est devenue dérangeante?
Eux-mêmes peuvent le qualifier de rebelle. Même Dieu a eu à avoir en face des rebelles. Excusez-moi, tu es chrétien comme moi. Jésus a eu des rebelles. Parmi les 12, il a eu des gens. Pour dire que dans toute société, il y a toujours ceux qui ne sont pas d'accord. Le fait de ne pas être d'accord ne peut pas être qualifié d'être ennemi. Je ne suis pas d'accord avec tes idées. Je ne suis pas d'accord avec ta gouvernance. Je ne suis pas d'accord avec la manière, la méthode avec laquelle tu gouvernes. Je n'ai pas tort. Et je ne suis pas la seule personne à le dire. Les journalistes le disent tous les jours. Les opposants le disent tous les jours. Pourquoi ce soit le mien? Vous savez, là où ça chope, là où ça coche, ou là où ça s'accroche ceux qui sont au pouvoir, c'est que tu ne dois pas faire ça. Tu es des nôtres. Entre griffes, il faut enlever ça de la tête. Ceux qui sont dans cette mentalité identitaire-là, ils n'ont qu'à enlever ça. Nous, on a fini avec ça. Telle personne est Kabier, telle personne est Évé, telle personne est Moba, tout ça là. Nous, on en a ras-le-bol avec tout ça là. Arrêtez ça! Togolais, c'est Togolais. Point. Nous sommes une nation. C'est ça, non? Vous dites que nous sommes une nation.
Oui, mais
donc, respectez ce qu'on dit dans le cadre d'une nation.
Sur ce plan, justement, quand on voit que Mme Nyakade, avec son poste qu'elle a eu à occuper, c'est-à-dire le ministère des Armées, est-ce qu'avec ce poste-là, elle ne devait quand même pas avoir un droit de réserve sur un certain nombre de choses?
Je ne sais pas ce que le code militaire dit. Mais je me dis, c'est pourquoi je me suis référé au code militaire. Je me dis, en étant en fonction, d'accord, mais elle n'est plus en fonction. Justement, c'est à cause de ça, elle a... C'est ça qui a créé les bisbilles et elle a dû démissionner. Si la personne veut parler, elle ne peut pas être au poste. En le faisant, on dira qu'elle a trahi le drapeau togolais, qu'elle a trahi le code militaire. Là, je serais d'accord avec ceux qui gouvernent. Hein. Mais ici, dans ce cas, elle n'est plus ministre de la Défense. Elle a démissionné ou elle a été virée. Parce que peut-être ça a commencé par... Le feu a commencé par venir. Sinon, le lien que Mme Nyakade a à avoir avec le président du Conseil, je ne crois pas que ce soit de cette manière qu'on devait la débarquer ou qu'elle devait quitter là-bas. Ça veut dire que le problème est là depuis. Maintenant... Un problème qu'une femme, je parle d'une femme, nous sommes des hommes. Quand on parle d'une femme, c'est autre chose. un problème qu'une femme tient dans son cœur ou garde dans son cœur. Mais ça doit exploser. C'est ça. Et elle-même, je salue son courage. La femme ne retient pas sa langue. Hein. On vient d'en parler. Une femme, pour ceux-là qui ne sont jamais mariés, là. Allez, essayez, mariez. Allez. Il faut se marier. Vous comprenez ce qu'on appelle une femme. Son arme première, c'est sa langue. Donc ne cherche pas à arrêter cette langue. Soit il faut la tuer avant de te libérer. La dame, son arme, c'est sa langue. Mais si tu veux la priver de sa langue, mais là, soit il faut la tuer. C'est ce qui est en train d'arriver. Donc, elle a préféré quitter là-bas pour être en liberté de dire ce qu'elle a voulu, peut-être ce qu'elle tente de dire, mais on ne la comprend pas. On ne veut pas l'écouter. Et elle a dit, dans plusieurs de ses posts, elle a dit, même dans l'interview, elle a dit, pour dire que c'est l'autre qui m'inquiète, c'est Amron. Amron, en quoi ça inquiète encore? La personne, vous avez dit qu'il est déficient, son problème touche la déficience intellectuelle. Vous l'avez même amené à Zébé. Bon, excusez-moi. Supposons que c'est... On le considère comme un fou, dans notre jargon local. Qu'est-ce qu'un fou? Ah, va vous inquiéter. Mais un régime qui en va prendre un fou. Donc c'est le régime qui a peur. Il y a un problème. Quelqu'un qui va prendre quelqu'un qui est difficile, qui est malade mentalement, c'est que lui-même, il a peur. Il y a un problème. Il y a des choses, je serais conseillé de Fang Yansimbi, il y a des choses que moi je ne ferai pas. Est-ce que c'est lui-même qui le fait? C'est son entourage? Ce que je sais, c'est qu'on ne fait rien sans qu'il nous soit au courant.
D'accord. C'est vrai que c'est dans ce contexte-là que l'élection des maires et de leurs adjoints a été reportée trois fois. Et pour cette troisième fois, il est dit même d'ailleurs que c'est reporté à une date ultérieure. Là, est-ce qu'on pourra dire que non? On a l'impression peut-être alors qu'il y a un souci hein, par rapport à cette élection alors des maires.
Non, la 5e République est en train de tanguer. C'est-à-dire ils sont en plein tango comme ça. C'est-à-dire là où le grand souci aujourd'hui, c'est vrai, on parle des maires, on parle des collectivités territoriales, on parle de la décentralisation, on parle de la gestion des maires, on parle du bilan des maires. Mais tout ça là, il y a un package. C'est contenu dans la 5e République. À la fin, même si les élections ont eu lieu bien avant et l'entrée en vigueur il y a de cela plus d'un an de la fameuse 5e République, je me dis aujourd'hui qu'il y a un grand souci. C'est-à-dire qu'il y a des institutions qui ne sont pas en place. La HAC n'a pas encore trouvé de remplaçants. Et il y a l'organisation de... Comment on dit ça? Le CDE, tout ça là. Il y a plein de choses qui n'ont pas été constituées. Et aujourd'hui, personne ne dit rien pour ne même pas dire que le gouvernement n'existe pas. Tous ces ministres qui agissent aujourd'hui, c'est des ministres démissionnaires. Il y a des grandes décisions que les ministres prennent. Il y a des décisions hautement de tel niveau qu'un ministre démissionnaire ne peut pas prendre. Mais au Togo, ça se fait. Ça ne dit rien à personne. Donc aujourd'hui, le report, on a titré la dernière fois, troisième report, ça veut dire qu'il y a un problème. C'est vrai que nous, on a pris un angle. L'angle qu'on a pris, c'est de faire en sorte de négocier quel mot on a utilisé. Nous avons parlé des billets qui vont circuler comme par le passé. Les billets ont circulé pour que UNIR prenne le contrôle de certains mairies. Les billets doivent circuler. Il y a de la magouille qui va se faire. Mais il y a autre chose aussi parce que parmi ceux-là qui ont été positionnés étant en première ligne ou comme on a la tête de liste, il y a des ministrables. Il y en a qui sont des ministres qui sont positionnés en tête de liste. Soit on forme le gouvernement d'abord avant de faire l'élection des maires de leur argent, ou soit c'est ça qui retarde, et on ne sait pas ce qui retient le président du conseil pour former son gouvernement. Soit, finalement, on décide de faire les élections des maires et carrément de dissocier tout ce qui est gouvernement de la gestion des communes, qui est une gestion à la base, qui est une gestion de proximité, qui concerne les citoyens. Ça n'a rien à voir avec la formation du gouvernement, tout ça là. Au Togo, on mélange tout. Et les principes même de la décentralisation, selon la loi de juillet de 1982 de François Mitterrand, que tout le monde copie en Afrique, aucun principe n'est respecté. Il y a des principes que je peux te citer. Personne ne respecte ça. Même les principes qui touchent les finances ne sont pas respectés. Les intrusions répétées du ministre de la Santé territoriale, de tous les ministres qui sont passés, surtout les deux derniers ministres jusqu'à celui qui est là aujourd'hui, c'est une catastrophe. Que ce soit au niveau de la chefferie, que ce soit au niveau de la décentralisation, ils font tout pour que les choses soient à leur niveau. Ils font tout pour que les choses soient à leur, en leur faveur. Ce n'est pas de la décentralisation. Ils sont en train de faire de la recentralisation. Nous sommes dans la déconcentration, d'accord ? Mais ils durcissent la déconcentration en parlant de la décentralisation. Et là, nous sommes dans la recentralisation.
Mais aujourd'hui, est-ce qu'on ne peut pas penser aussi qu'il y a peut-être alors des négociations pour que peut-être le parti au pouvoir ne reçoive pas toutes les mairies? C'est vrai que les résultats des élections municipales nous ont donné quand même une grande majorité du parti au pouvoir quand même qui a justement été acquis au parti au pouvoir. Mais finalement, est-ce qu'il n'y a pas peut-être alors des négociations pour que du moins certaines mairies soient également à l'actif alors de l'opposition?
Oui, ça s'est déjà passé. Ça s'est passé, je l'ai dit, ça s'est déjà passé dans certaines communes. Sinon, le maire Golfset ou bien la mairie Golfset devait tomber dans la main de l'indépendant ou de l'opposition. Malheureusement, c'est l'unique qui a pris. Et on sait comment ça s'est passé. Tout récemment dans le Golfe 2. Par quelle alchimie, celui qui occupe le poste actuellement est arrivé? Ça aussi, on a fouillé. On sait à peu près ce qui s'est passé, comme tout ailleurs. Et ça peut encore se passer aujourd'hui. Donc, ainsi sur le cas du Golf 4. Mais si on fait les élections que Fabre ne gagne pas le Golf 4, Fabre peut aller. Fabre n'a pas que ça à faire. Il peut aller trouver ce qu'il faisait avant. Il n'y a aucun souci. Mais s'il veut négocier avec Fabre, parce que Fabre aussi devait avoir forcément des conseillers ailleurs. S'il veut faire des échanges, ça se fait. Ça peut se faire. Mais à coup de liasses et de magouilles, d'intimidation, de menaces, c'est là où nous dénonçons. C'est simple à le faire, c'est simple à faire. Et les gens sont là, ils sont tellement gourmands, ils veulent tout prendre, ils sont là prêts à prendre tout. Et donc, quand vous voyez ces gens-là en face, frayez-leur leur chemin. Carrément leur chemin. Ou ils acceptent de négocier, pas forcément avec des billets, des jeux d'échecs, ou pas échecs, des scraps. Chacun, tu prends telle place, je prends ici. Et chacun est gagnant. Vous ne pouvez pas prendre 75% des communes et encore retarder les élections. Personne ne peut comprendre ça. Vous allez voir, et c'est vrai qu'il y a des sociétés de pré-collecte qui partent dans les quartiers pour chercher, mais il y a des dépôts sauvages aussi qui se créent parce qu'il n'y a aucune coordination. Il n'y a aucune coordination. Et en plus, quand on parle des communes ou des collectivités territoriales, c'est l'assainissement. On parle de gestion des déchets et des ordures ménagères, mais c'est l'assainissement aussi. Allez voir ce qui se passe sur certaines routes. Depuis plus de 4 mois, les sables qui s'entassent sur la chaussée au niveau de la route de Ségbé, pas seulement, ne sont jamais enlevés. Ça veut dire que le maire là, qui est là, il ne fait plus rien. C'est encore ailleurs, ça se passe comme ça. Ça veut dire que moi, je suis en train de partir. Vous voulez que je fasse quoi? Avec qui? Avec quoi? C'est ça en fait. Donc aujourd'hui, je me dis que mieux vaut aller vite à ces élections pour qu'on voit le visage des exécutifs des communes que de vouloir attendre la formation du gouvernement pour y aller, ou soit que de vouloir créer d'autres problèmes, parce que en le faisant tout de suite, ça ne nous avantage pas. Parce qu'ils ne font rien sans calcul.
Bon, on va terminer justement ce débat avec ce sujet également sur lequel alors des journaux sont revenus. C'est bien le commandement qui a changé de main justement au niveau des universités publiques alors du Togo. C'est vrai, déjà quand on prend l'université de Lomé, il y a le professeur Mnaké qui remplace le professeur Kouda, et ce qui suscite encore plus alors de réactions, c'est au niveau alors de l'université de Kara, et des journaux bien sûr sont revenus là-dessus, puisqu'il y a une femme qui prend la tête alors de l'université de Kara. Cette fois-ci, il y a le journal Le Tonnerre qui écrit enseignement, un décret qui fait date, le PC élève professeur Prénom Moussou Mouzou figure du mérite à la présidence universitaire. Autre journal qui revient sur le sujet, c'est bien le journal Canal D. Canal D écrit « Université de Kara, professeur Prénam Houssou Mouzou, la présidence au féminin pour une première ». Et également, autre journal qui bien parle alors du sujet, c'est Ouara les vainqueurs. Ouara les vainqueurs qui écrit, bien sûr, professeur Houssou Mouzou, première femme présidente d'une université publique au Togo, la nomination historique d'une femme au parcours séduisant. En bref, on pourra dire avec cette nomination à la tête alors de l'université de Kara que la promotion de la femme suit justement son cours normal.
Vous savez, moi, quand on parle désormais, j'aime beaucoup la femme. Hein. Ah, j'aime beaucoup trop la femme. J'aime tellement les femmes que, de par ma maman, mes grandes sœurs, mes petites sœurs, on est très nombreux, donc j'aime tellement la femme. Moi-même, j'aime ce qu'on appelle femme. Mais dans le cas du Togo, et on parle de politique, les femmes qui ont fait l'expérience autour de Fonia Singbe, moi, m'ont déçu. Il y en a qui sont même allés loin, il faut leur faire peur. Tu te rappelles de cette phrase de Mme Dogbe à l'Assemblée? D'accord. Donc, ce qui fait que moi, je ne fais plus confiance aux femmes qui rentrent en politique. En tout cas, ceux-là qui sont dans Unir et tout, que qu'on sort. Il y en a parmi elles que moi, je respecte, parce que c'est des gens qui se respectent. C'est, même si je ne porte pas les idéaux de Unir dans mon cœur, il y en a des femmes que je respecte là-bas, qui sont soit des députés ou certains rares ministres. Mais je me dis qu'on parle de dames. La dame a eu aussi. Il y a le revers, le contraire de ce que les confrères ont publié. Hein. Ah, quand tu vas dans le cadre des histoires de Amron, il y a des choses qui sont dites sur cette dame. Je ne voudrais même pas rentrer dans ce débat.
Oui, mais oui, parce que intéressons-nous plutôt à sa nomination à la tête de l'université de Kara.
Tout ça, c'est justement ce que je dis. Parce que quand on parle de nommer quelqu'un à la tête du temple du savoir, il faut qu'il y ait une certaine éthique et de morale dans la chose. Mais quand la dame a beau être brillante, elle a beau avoir toutes les capacités, les compétences, mais quand il y a un petit grain qui entache un peu la chose, il faut aussi avoir le courage de le dire. Moi, je n'ai rien contre elle. Je la trouve même belle. Et c'est une femme togolaise, ça me plaît. Mais juste pour dire qu'il y a des choses dans lesquelles il ne faut jamais mettre son nez. Elle, son nom n'aurait pas circulé autour d'une affaire de Amron, tout ça là. Et c'est même la une de mon journal pourrait la porter. Mais vous savez, nous respectons l'éthique et tout ce qui est moral. Tout le monde est faillible. Nous aussi, nous sommes faillibles. Mais il y a des choses dans la vie qu'il faut se garder de faire. Quand on te demande une mission et que tu penses que cette mission peut entacher ta crédibilité ou son honneur, il faut refuser. Même si, en matière militaire, c'est l'exécution avant réclamation. Je la souhaite bonne chance, parce qu'en fait, en réalité, elle-même, je n'ai rien contre elle, mais je me dis que il pourrait y avoir de retenue dans telle chose. Ce n'est même pas la question de nommer une dame.
Oui, c'est pour la première fois. C'est pour la première fois qu'il y a
une dame. Il y a une dame première ministre dans ce pays.
Non, je veux parler alors de l'université. Quand on parle du temple, alors de savoir.
Il y a une vice.
Oui, madame Pegba.
Oui.
Effectivement.
Bon, je ne voudrais pas faire le truc là. C'est-à-dire qu'elle, au moins, elle a fait l'expérience de la gestion de l'université de Lomé. Si c'est elle qu'on nomme, ça ne fera pas trop de trucs. Mais ce qui étonne aussi certaines personnes, moi j'ai écouté un débat, ce qui étonne certaines personnes, c'est pourquoi tout ce tournant-là autour d'elle. Parce qu'elle elle n'est pas la seule femme au Togo qui a pris des postes spéciaux dans ce pays.
Et pour la Donc première ça, fois à l'université de Kara.
Non, en fait, moi je dis plutôt que c'est peut-être l'image serait écornée entre-temps et qu'on l'amène ici, il faut rehausser son image. C'est ce que j'ai compris. Hein. Moi je suis journaliste. Je ne m'arrête pas aux analyses de tout le monde. Nous, on va souvent au-delà de ce que les gens pensent. Et donc, pour essayer d'arranger son image, ce n'est pas les journaux arrangent l'image, d'accord. Mais ça reste dans la conscience collective que telle chose, tel événement, tel fait s'est passé entre-temps.
D'accord.
C'est ce que moi je dis. Moi, je n'aime pas le langage de bois. Mais je me dis que c'est une femme. Elle est déjà nommée. Voyons-la à l'œuvre pour voir ce qu'elle peut faire. Et bonne chance à elle.
D'accord.
Mais que chaque individu, chaque Togolais puisse penser à demain ce qu'on deviendra pour éviter certaines choses en amont. D'accord. C'est ce que j'ai voulu dire.
Merci beaucoup, Ambroise. Merci d'avoir tenu, justement, dans le temps, tenu ce débat jusqu'à ce que nous ne terminions, justement, ce débat. J'annonçais même d'ailleurs au début qu'il y a les confrères et Loma Tissoubé et aussi Jean Legrand Polerini qui devaient être avec nous, mais qui devraient être
grande,
avec
une grande conférence de presse. Moi, j'ai dû quitter. C'est pourquoi les confrères ont dû. Moi, je respecte beaucoup le tuteur. C'est pas que les confrères ne respectent pas. Mais moi, donc, des gens pouvaient arriver ici. Peut-être ils n'ont pas encore fini même là-bas. Mais moi, on a commencé. Moi, j'ai dû quitter.
Puisque ici aussi, c'est un engagement. Merci.
C'est un engagement.
Oui, merci. Merci beaucoup, Ambroise. Nous allons maintenant donner la parole à nos auditeurs. Ils vont s'exprimer sur le 90, 86, 35, 35, 91, 36, 63, 75. Et aussi sur notre numéro WhatsApp, 90, 45, 78, 57. Mais bien avant, nous faisons un clin d'œil à nos annonceurs.
93.5. Canal FM. Canal FM.
Nous sommes de retour dans cette émission Club de la Presse et maintenant nous nous ouvrons à vous. Vous pouvez nous appeler au 90 86 35 35, 91 36 63 75 et aussi sur notre numéro WhatsApp 90 45 78 57. Premier auditeur en ligne, allô?
Pascal, bonjour.
Bonjour Évangéliste Senghor, comment vous allez?
Bon, ça va bien, je voulais saluer votre invité. Mon frère, bonjour.
Bonjour, Évangéliste.
Je voudrais dire à tous les Togolais de se patienter, qui n'ont qu'à avoir l'espoir sur Dieu. Rien n'est éternel. Chaque chose a son temps. Ouais. Je le réitère encore. Ouais. Chaque chose a son temps. Il y a des pays qu'on connaît, la Roumanie, des Syrie, comment la fait ça, la Syrie. Tout ça, là, aujourd'hui, il y a la fin. Bon, pour terminer avec Mme Niakade, tout ça là, et comme mon frère Kondo vient de le dire, les femmes, nous avons les femmes à la maison, une femme qui parle là, tu prends ton habit, tu mets ça sur le pot, tu sors, et tu reviens à la maison, il y a le calme. Mais le fait tous les temps, s'il vous plaît, le procureur de la République, général ou quoi, je ne sais pas, les juges togolais, vous avez traité devant Dieu, devant les hommes.
Il y a le vrai juge. Il y a le pardon. Si nous voyons la vérité et on contourne ça, on dit le mal, il y a un danger devant. Il y a un danger devant. Il y a le vrai juge qui est Dieu. Le vrai juge, que celui-là qu'on ne corrompt pas. Toutes nos actes que nous posons, que ce soit moi, Évangéliste Senghor, tout le monde, tu es militaire, tu as quoi, tu vois la vérité, tu contournes, dis-toi que tu vas payer après la mort. Et maman commence pas sur la terre d'abord. Laisse la malédiction sur ses enfants. Je m'arrête ici, que Dieu bénisse le Togo.
Évangéliste Senghor, merci pour votre intervention. Bonjour, chef plateau. Concernant une fois encore les élections, à vouloir trop manger, à avoir tout pour soi, on s'étouffe. C'est dommage que les gens n'apprennent pas de leur erreur. Le plus aberrant, c'est qu'ils ne font rien pour changer la situation de la majorité des Togolais. C'est Nono qui nous écrit. 90, 86, 35, 35. Allô? Allô, bonjour.
Oui, allô.
Oui, bonjour. Allô, bonjour. Allô? Oui, bonjour, je vous écoute. Allô.
Allô.
Décidément, il n'a pas de retour. Kiki, on reçoit notre auditeur. Allô.
Ah, bonjour, Pascal.
Bonjour, Basile. Comment vous allez?
Ah, tout doucement.
D'accord, allez-y.
Bon, ben, vous savez, Ambroise aussi. Nous sommes là.
Allô, Basile.
Oui, votre
radio siffle.
Mais bon, je vais parler avec le téléphone seulement. Parce qu'il se trouve. Bon, mais hier, je voudrais vous parler. Il faut qu'il y ait le parallélisme des formes. Je m'en dis, quand moi j'ai parlé, je n'ai pas appelé le nom de votre collègue.
Basile, oui. vous nous avez suivi aujourd'hui.
Oui, je vous ai suivi.
Oui, justement, nous avons parlé de beaucoup de sujets. Je voudrais plutôt que vous vous prononciez sur les sujets débattus ici aujourd'hui.
Ah, d'accord. Je coche pour Mme Nicolet. Vous dites que je ne sais pas pourquoi on doit acharner toujours sur les citoyens. Ambra disait qu'il ne connaît pas le code de l'ESPAD. Madame Nakadé n'est pas militaire. Elle a été ministre des armées. Ça s'arrête là-bas. Elle n'est pas aussi obligée de connaître un code militaire ou pas. Elle n'est plus en service. Lui-même, il a dit aussi. Il n'a pas besoin, elle n'a pas besoin de droit de réserve que vous avez dit. Quel droit de réserve? Elle parlait de foi. Elle parlait de que les gens n'ont qu'à prendre les armes pour faire coup de ça ou bien quoi. Elle parle de la malgouvernance. Comment est-ce que pendant 20 ans, on n'a rien fait et on a endetté le pays? C'est ce que M. Sissou dit. Est-ce que ça, là, ce n'est pas suffisant pour que la personne parle si la personne aime vraiment son pays? Moi, je ne comprends pas. Elle n'a pas besoin de droit de réserve. Quel droit de réserve? On vous fait souffrir et puis il faut qu'on ait droit de réserve. Moi, je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'on peut comprendre? On va comprendre quoi dans ça? On vous fait souffrir dans le pays. Vous n'arrivez pas à manger une seule fois, même par jour. Et il faut que vous ayez droit de réserve. Merci à vous.
Merci Basile pour votre intervention. 90 86 35 35 91 36 63 75. C'est sur ces deux numéros que vous pouvez nous appeler. Allô?
Oui, allô?
Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Votre nom, s'il vous plaît?
C'est monsieur Agbovon depuis Zangara.
Ah, monsieur Agbovon, allez.
Je salue les frères qui sont au studio avec vous là-bas.
Et il n'y a
très sincèrement, monsieur Fonjo. Vous savez ce que je vais vous demander? Moi, ces dernières fois, où ça peut durer longtemps dans le temps. Et où nous entraînons sur les réseaux sociaux. Ça dépasse les éducations que nous avons reçues de nos parents. Ce n'est pas bien là. Quand nous voyons nos responsables s'en prendre à leurs frères ou bien à leurs sœurs. Nous parlons de Madame Nakadé. J'ai vu sur le YouTube, il y a un monsieur là, je ne vais pas nommer son nom. Non, non. Nous ne sommes pas les Togolais ne sont pas comme ça. Hein. Là, non, 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 non. Ça, c'est quelle éducation, hein? Un responsable de la République. Et notre frère, M. Fognacide, il voit ça. Les gens s'en prennent sur les réseaux sociaux. Ils disent de n'importe quoi. Ce n'est pas bien là. Oh, non, non. Non.
D'accord.
Non, il faut que M. Fognacide recadre ça. Hein.
Merci, merci.
Ce n'est pas bien.
D'accord, merci, M. Agbovon, pour votre intervention. 90-86-35-35. Allô?
Bonjour, Pascal.
Bonjour, Patrick. Comment vous allez?
Ça peut aller chez vous.
Ça va aussi, par la grâce de Dieu.
Monsieur Rolf, mes considérations.
Bonjour, monsieur Patrick.
Ben, tout pour l'émission d'aujourd'hui, malgré que vous soyez seul, mais vous avez fait le combat. Félicitations à vous.
Merci.
Pour l'émission, je vais dire ceci. En ce qui concerne les banques, la grève qui s'ébranle présentement, je crois que si réellement l'autorité en question veut arrêter cette grève, elle peut le faire. Puisque vous avez reçu les deux parties, nous tous, on a suivi, et les représentants du PAC et les syndicalistes. On a compris à peu près ce qui se passe entre ces deux entités. Et si l'autorité veut, moi ça m'étonne que le temps que les grévistes là ont donné a dépassé et jusqu'à ce que les grévistes là n'entrent réellement ou bien mettent en action leurs menaces. Pourquoi attendre que la grève soit là, malgré qu'ils ont expliqué, les banques aussi ont donné? Pourquoi ne pas trouver un terrain d'entente? Est-ce qu'on a besoin d'aller jusqu'à la grève avant de trouver une solution? Parce que tôt ou tard, il y aura quand même un compromis. Parce que la grève ne peut pas être éternelle. On doit trouver. Pourquoi ne pas trouver ça en amont? On va laisser les acteurs aller en confrontation d'abord, si réellement il y a cette volonté de médiation. Vraiment, c'est ça, quoi. Je salue au passage Saf Gaou et puis... mon homonyme, le commandant Abbas.
D'accord. Bonne émission. Merci et Patrick pour votre intervention. 90 86 35 35 91 36 315. Allô?
Oui, allô?
Oui, bonjour.
Bonjour, grand frère.
C'est Benoît.
Oui, c'est moi.
Benoît Dagoué, et j'espère que vous allez bien.
Oui, avec l'aide de Gévedol.
D'accord, allez-y.
Et je pense qu'au Togo, il y a un médiateur ou une médiatrice de la République. Je ne comprends pas, je ne comprends rien au Togo. Comme celui qui vient de passer dit, ils vont attendre et jusqu'à ce que on décrète qu'on donne des tranches la grève, avant qu'on ne sorte nous dire que la grève n'est pas légitime. Un ministre qui a fait plus de 15 ans dans le gouvernement. Écoutez, c'est la médiation. Vous savez, à l'école, quand on était au primaire, quand on envoie quelqu'un au tableau, il n'arrive pas à défendre les gens, à trouver la bonne réponse. Le professeur demande aux autres qui sont ici, d'autres qui sont derrière, et tout le monde passe. Ce qui s'est passé, j'ai tenu par là l'autre fois, le pays là, Malawi. Quand le président était au pouvoir, on dit qu'il ne pensait pas, parce qu'il a été inversé par une élection. Actuellement, il est revenu par une élection transparente avec plus de 64%. Pourquoi Togo doit... Non, merci, bonne journée.
Merci Benoît pour votre intervention 90 86 35 35 91 36 63 75. Les deux numéros sur lesquels vous pouvez nous appeler. Allô?
Oui.
Bonjour Pélé.
Bonjour.
Oui Pélé, bonjour.
Salut, je suis Ambroise. Bonjour. Le porte-parole de Sambois.
Merci.
D'abord, je voudrais parler de l'indice, c'est-à-dire surtout les rangs. Oui, on a dit que le Togo est deuxième de l'Afrique de l'Ouest, etc. Moi, j'ai mis un peu de réserve sur ces gens de rang qu'on appelle souvent et on colle au Togo. Je donne comme exemple. Je suis en 2017 où on savait que à partir de juillet 2017 jusqu'à décembre 2018, le Togo était en ébullition. Tellement qu'il y avait la terreur qu'il n'y avait même pas, les gens ne sortaient pas même pour que les gens rentrent pour visiter le pays. Mais au finish, on avait décrété le Togo le pays le plus visité, le deuxième pays le plus visité de du monde après l'Égypte. C'est là où j'ai compris qu'on fait les choses en amont. C'est-à-dire, on avait compris que ça a été dire que le Togo doit abriter deux réunions à l'époque, en 2017, deux réunions. La francophonie et l'Afrique-Israël. Donc, automatiquement, il doit avoir la mobilisation. Les gens doivent visiter le pays. On avait prévu ça pour dire que le Togo sera le pays le plus visité. Alors que, après toutes ces situations-là que le Togo avait vécues, malgré ça, on a décrété le Togo que le Togo est le deuxième pays le plus visité après l'Égypte. C'est là où j'ai compliqué. Ah, voilà ça. On fait les choses en avant. C'est comme on donne l'avance à la Chine. Ça veut dire que je ne sais pas par quel critère on donne, ou bien les observateurs, ceux qui donnent le prix là, ou bien le rang là, par quel critère. On peut donner que depuis en 2017, le Togo était en édition. Il n'y avait pas la visite dans le pays. Mais on avait développé le pays. Le Togo, le deuxième pays le plus visité. C'est-à-dire que c'est comme à l'époque. L'animation qu'on dansait à l'époque, je pense que Ambroise avait dansé, je ne sais pas si Pascal avait dansé l'animation. Et il y avait une chanson qui disait que, à un moment donné, il a décidé d'être le gardien du but. Si on a tiré à gauche, il a attrapé. Si on a tiré à droite, il a attrapé. En haut, en bas, il a attrapé. Même, on n'a même pas tiré, il a attrapé. Ça veut dire que le Togo est devenu un pays que c'est de l'or. Quel que soit de mauvais que la population est en train de subir, c'est de l'or. C'est dommage.
D'accord, merci. Merci Pélé pour votre intervention. Bonjour Canal FM. J'aimerais dire merci à Ambroise pour ses analyses pertinentes, ce que nous tous nous savons. Et élection ou pas élection unie va encore prendre la grande partie des mairies. Donc à quoi s'attendre encore? C'est André qui nous écrit depuis Dakar. 90 86 35 35 91 36 63 75. On va recevoir notre dernier auditeur pour le compte à l'heure de cette émission. Allô.
Allô.
Bonjour.
Bonjour.
C'est M. Niamavo.
C'est Niamavo, oui.
Allez-y.
Oui. Nomination. Comment on le sait? Comme le mot le dit, c'est une nomination. Ce n'est pas par un concours. Si c'est un concours, on va dire qu'à la une première dame à la tête de l'Université du Togo. Votre confrère le disait, avec affaire à Amron, peut-être qu'elle sait. Elle a eu à détecter les jeunes qui sont aigris. Elle va faire ce marché-là pour le pouvoir. Donc le pouvoir va sélectionner les jeunes aigris pour les faire taire et on va avancer. Sinon, c'est une nomination, c'est une simple nomination. Vous savez, quand on dit que le régime-là est fatigué, on va aller dans le domaine de l'agriculture pour expliquer mieux. Quand tu achètes une daba, trois bandes, même si tu es paresseux n'importe comment, ça va finir. Il faut changer une nouvelle daba. Maintenant, on prend les dabas qui sont finis là, c'est avec ça qu'on cultive les champs là. Quel rendement va avoir la saison là, tu appelles les billons. L'autre saison, on dit alternance. Tu vas encore faire d'autres billons pour faire ta plantation. On sème encore sur les mêmes billons pour attendre quel rendement. Sinon, c'est scientifique quoi, c'est mathématique. Donc, on n'aura rien. Bonne émission.
Merci, Monsieur Niamavo, pour votre intervention. Et Monsieur Niamavo, justement, c'est lui le dernier auditeur pour le compte à l'heure de cette émission. Nous revenons en plateau pour faire un dernier tour de table, ou du moins, nous allons donner la parole à Ambroise pour se prononcer pour mettre fin à l'émission. Ambroise, vous avez suivi les uns les autres se prononcer, réaction?
Oui, il m'a rappelé l'époque, une certaine époque. Il y a des mains que la protogo joie, il y a des mains.
Là, c'est autant de l'animation.
Oui, au photo diaolé, au photo gomme, tout ça là. C'est les 3S. C'est les sous-sections scolaires. Moi, j'étais en 6e ou en 5e. Et moi, je me rappelle quand il venait, je m'accroupissais dans les bancs pour qu'on ne voit pas que je suis élancé. Parce qu'on prend ceux qui sont un peu de taille élevée. Donc, je fais tout. Je pourrais rester chez ceux qui jouent les gongons et les tambours là. Donc j'évitais l'animation. Il y a les gens de la Réto, les animateurs de la Révolution togolaise. Ils sont c'est les grandes dames, les jeunes dames. Mais chez nous, c'était obligatoire. C'était sérieusement obligatoire. Et jusqu'à l'époque de Yadema avait fêté ses 20 ans en 87. Moi j'étais pratiquement à cheval entre 5e et 6e. Donc, M. Pelé a... il a raison. Maintenant, revenons sur les autres auditeurs. Je crois que tout a été concordant avec ce que j'ai eu à dire ici. Pour dire qu'en réalité, M. Senghor, l'évangéliste Senghor, qui disait que c'est ce qu'il dit, nous le disons tout le temps, que rien n'est éternel. Rien, c'est quoi, c'est maître qui a l'habitude de dire. Tu peux rester sur le fauteuil. Un jour, tu partiras. Parce que chaque personne a un temps de vie. C'est comme les machines, les ordinateurs, les portables. Quand la fin de vie arrive, tu ne peux rien. Il ne faut pas qu'ils essaient de remplacer de se faire remplacer par leurs enfants. Ça ne marchera pas. Et ils peuvent tout faire, ça ne marchera pas. Parce que ce n'est pas la même méthode de gouvernance, ce n'est pas la même intelligence, ce n'est pas la même astuce qu'on dirige les pays. La preuve est là, aujourd'hui, je ne vais pas citer de nom, il y en a qui ont gouverné avec Yadema, leurs filles sont là, mais ils ne foutent rien. Mais ils sont au gouvernement, ils ne foutent rien. Donc, libérer le pays, libérer ceux qui sont en prison, les Omolou, les Aziz Goma, les Nyakade, les Affection, il faut libérer. C'est-à-dire que ce n'est pas le fait de les garder en prison que vous pensez que vous tenez un pion à la main, non.
Merci.
Gouverneur un pays, gouverneur un peuple, ce n'est pas tenir un pion à la main. C'est gérer en sorte que le peuple soit heureux.
Merci, merci, merci beaucoup, Ambroise.
Et que l'indice merci. De développement, là, soit répondre aux réalités.
Merci beaucoup, Ambroise. Merci d'être passé. Merci à vous tous qui nous avez suivis, puisque nous sommes à la fin de cette émission. Je rappelle quand même que dans les kiosques, hein, ce matin, vous pouvez retrouver le journal Ouara les Vainqueurs, la Nouvelle Tribune, et aussi Canal D, que vous pourrez retrouver aussi dans les kiosques, sans oublier le journal Le Tonnerre, hein, qui est aussi dans les kiosque également, chronique de la semaine. Il y a aussi le journal SICA. Le journal SICA, je vous livre rapidement les titres à la une alors du journal pour terminer cette émission. Le journal SICA qui écrit hein, la ministre Marguerite Niakadet arrêtée dans la stricte intimité familiale. Et par la suite, vous savez quand même que c'est un journal satirique avec justement son ton d'humour. Le journal écrit Madja Elouale et tu es venu pour l'arrestation ou pour l'acarrestation et également quelqu'un d'autre qui répond patron, vous voyez, ce n'est qu'une femme et elle n'est même pas armée. Et un autre qui répond Azui, arrête là, et elle est armée. Et tu ne vois pas ces deux Zanochnikov AK-47 s'attirent. Moi-même, j'ai vu. Vous savez justement le ton satirique sur lequel le journal SICA écrit toujours. Merci à vous tous qui nous avez suivis, puisque nous sommes à la fin de cette émission. Ambroise Ponzo, merci à toi d'être passé dans cette émission. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du journal des Guadians. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Merci à Kiki Sosaki a assuré la mise en onde. Jérôme Dakoutse était à la mise en ligne. Je suis Pascal Ossou. Je vous retrouve demain vendredi à partir de 11h pour un nouveau numéro de l'émission Club de la Presse. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.
Cette émission vous a été offerte par la bière Wachteiner, aussi nommée Sikavi, est une bière internationale d'origine allemande depuis 1753. Distribuée au Togo par la SNB. Wachteiner, la vie dorée.